Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous. Si Léni était un homme de conviction, évidemment, il doutait. Croire en Dieu et douter de Dieu. Croire en l'homme de son temps et être horrifié par ses actes. Léni est bien le reflet de son époque. Et s'il n'y a pas homme plus joyeux dans la vie, ses œuvres expriment douloureusement les paradoxes de son temps. On ne comprend rien à Léni si l'on n'a pas en tête son éducation religieuse et intellectuelle. De son histoire publique, il reste un terrible et douteux texte, celui qu'a écrit l'écrivain journaliste Tom Wolfe. Son titre, Le chic gauchiste. Rien n'a jamais effacé ce texte et rien n'effacera jamais ce texte de l'histoire tant il a eu et a encore un certain retentissement. L'article est brillant. Mais Léni et Félicia, sa femme, y sont ridiculisés. On se gousse, on s'amuse. Le texte est hilarant. Puisqu'il reste indélébile que la blessure est encore à vif, alors il faut comprendre comment et dans quel contexte Tom Wolfe a écrit ce brûlot. Enfin, il faut en comprendre les conséquences. Pour cela, je vous propose d'abord de découvrir un Léni intime et plus complexe humainement qu'il n'y paraît. Et nous allons nous pencher sur la période des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Ces années de guerre au Vietnam, des assassinats de Kennedy en 63, de Malcolm X en 65 et de Martin Luther King en 68. ...1962. Léni participe à la marche de Washington contre le développement de l'arsenal nucléaire.
With some 200,000 people coming from all over the country, scores of Hollywood celebrities literally dropped whatever they were doing to be there in person. You'll recognize the stars as they approach the podium, Sidney Poitier, Burt Lancaster.
1969. Nous sommes en pleine année Woodstock. Ces années beatniques, avant les années Sida, ces années où Léni écrit des œuvres majeures à consonance religieuse, Chichester Psalms, Mass et Kaddish. Nothing's going to harm you now. Na 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 Kaddish, c'est la prière des morts, mais pas seulement. Elle peut être chantée comme un chant de paix lors de tous les services de la synagogue. Or, Léni veut écrire son Kaddish à lui. Il va certes en composer le texte seul, mais ne pourra jamais en être satisfait. Sa prière est si intime qu'elle reste indicible. Mais au creux de cette œuvre, sa conviction est clairement lisible. Il croit en une foi qui rend humain. En ces années de possible guerre nucléaire et de désintérêt religieux, il a peur.
Oh, my father, ancient, hallowed, lonely, disappointed father, rejected ruler of the universe, handsome, jealous lord and lover, angry, wrinkled old majesty.
Dans le premier mouvement, le récitant explique qu'il peut mourir d'un jour à l'autre et qu'il souhaite une prière pour lui-même. La douceur laisse place à une cacophonie et le récitant hurle à Dieu de faire cesser ce chaos. Dans la version de 1963, le récitant était une femme, incarnant une sorte d'idéal féminin plus persuasif qu'un homme selon Léni. C'est sa femme, Félicia Montalegre, qui tient le rôle. La prière se récite en araméen et en hébreu. Certaines versions sont traduites en anglais.
Listen, Almighty, with all your might. There may just be no one to say it after me. Attention, majestic father. Is my end a minute away? An hour? Is there even time to ask the question? It could be here while we are singing that we're to be halted once for all, cut off in the act of praising you. But while I have breath, however briefly, I will sing this final Kaddish for you, for me, for all these I love here in this sacred house. And time is short. Time to begin our gallant Yit Gadal. Magnified. And sanctified, be the great name, Amen.
Kaddish souligne l'urgence de se rapprocher de Dieu. Comment ? En le questionnant, voire en l'apostrophant vivement, ce qui n'a rien de blasphématoire dans la tradition juive dont est issu Léni. Rappelons-nous la synagogue où Léni allait avec son père, l'étude du Talmud le soir. Sam Bernstein appartenait à un mouvement hassidique. Il est probable que ce soit lui qui ait parlé à Leni de Levi Itzhak, un célèbre rabbin polonais du XVIIIe siècle qui restait populaire à travers les siècles pour avoir houspillé Dieu jusqu'à lui faire du chantage. « De ma position, je ne bougerai pas, de ma place, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu mettes fin à tout cela. » Il y a de la rage et il y a de la naïveté dans ce personnage de légende. Alors bien sûr, Leni ne le comprend que trop bien. Lui aussi veut discuter avec Dieu. Il a des choses à lui dire.
Abundant peace descend on us. Amen. Great God, surely you who make peace on high, who manipulate clumsy galaxies, you who juggle a space full of suns, bend light, spin moons, surely you can handily supply a touch of order here below, on this one dazed speck. And let us say again, Amen.
Pour l'anniversaire des 70 ans de son père, Sam, Leni a fait un grand discours où il a comparé la relation de l'homme à Dieu à celle d'un fils à son père. N'oublions pas combien a été violent le conflit entre Leni et son père quand, adolescent, il avait décidé de devenir musicien. À la fin de son discours, il avoue que, devenu père lui-même, il sait maintenant que chaque fils doit défier son père. Dans le deuxième mouvement, le récitant s'en prend donc frontalement à Dieu et l'accuse de laisser les hommes s'armer au point d'être capables de détruire leur propre monde. Il va plus loin. Il rend Dieu responsable de cette folie et lui jette à la figure que si les hommes ne croient plus en lui, c'est parce qu'il les délaisse et refuse de voir le cataclysme imminent. « Tu demandes la foi ? Où est la tienne ? Dieu impuissant, ton marché est bidon. Je te demande des comptes, Dieu de pacotille. »
Bring pom bam pom pom, and then forte piano. All right, right on it. One.
J'adore vos visages. Ils sont si beaux. Mais je ne vous entends pas. J'adore vous regarder, mais je ne vous entends pas.
Tant que la dispute règne entre le récitant et Dieu, la musique est atonale et douloureuse. Mais elle devient tonale dès lors que le récitant se reprend pour s'être emporté et souhaite à Dieu un doux repos. Surgit alors une berceuse toute mélodique. C'est comme si Leni mettait en parallèle le grand conflit entre musique atonale et musique tonale avec son conflit avec Dieu. Et il nous affirme que la consolation ne peut qu'être tonale.
Chantez-moi votre entrée. Vous chantez bien les notes, mais ça ne va pas. C'est pas bon, il n'y a rien. Ça doit danser. Ça doit être clair. clair comme un rayon de soleil.
Dans le troisième mouvement, Dieu s'est endormi. Le récitant lui murmure dans ses rêves qu'il lui faut absolument croire à nouveau en l'humanité. Lorsque Dieu et l'homme sortent de leurs rêves, leur relation a changé. Les hommes ne se détruiront pas tant qu'ils croiront en Dieu. Ils ont retrouvé foi l'un en l'autre et chantent leur allégresse, pour le moment.
Must wake up now, and the dawn is chilly.
Lenny est arrivé au bout de sa symphonie le 22 novembre 63 quand il entend
President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. They were riding an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital.
Now here's another report.
3 semaines après, lorsqu'il dirige Kaddish en avant-première avec l'orchestre d'Israël, il dédie son œuvre à Kennedy. En 77, il la reprendra, coupera dans la musique et surtout dans le texte que lui-même trouve bien trop bavard. Il change d'avis pour le récitant. Désormais, le rôle peut aussi être interprété par un homme. Deux ans plus tard, Lenny prend une année sabbatique auprès du New York Philharmonic pour se consacrer à la composition. Mais il a du mal à s'y mettre. En fait, il caresse un nouveau projet de comédie musicale grinçante qui ne verra jamais le jour. Et des années après, il avouera : j'ai passé presque toute l'année à écrire de la musique en 12 tons et toujours plus expérimentale. J'étais heureux que tous ces nouveaux sons soient sortis, mais après 6 mois de travail, j'ai tout jeté. Ce n'était pas ma musique, ce n'était pas honnête.
On m'a collé des étiquettes et je m'y suis habitué. Le fait que ma musique soit souvent tonale explique une de ces étiquettes, qui est conservateur ou vieille école. C'est en grande partie parce que je crois en la tonalité. Ce n'est pas une conviction consciente, le fruit d'une décision consciente. C'est simplement ma nature, quelque chose en quoi je crois.
Le résultat final est Chichester Psalms, qui est la pièce tonale la plus accessible et la plus plate que je n'ai jamais écrite, affirme-t-il. En effet, au début de décembre 63, Bernstein reçoit une lettre du révérend Walter Hussey, le doyen de la cathédrale de Chichester à Sussex en Angleterre. « Nous nous demandions si vous seriez prêt à écrire quelque chose pour nous. Le genre de choses que nous avions en tête était peut-être, disons, une mise en scène de psaumes. » Et de conclure, « beaucoup d'entre nous seraient très heureux s'il y avait un soupçon de West Side Story dans la musique. » Si Lenny a écrit Kaddish dans la douleur, Chichester Psalms va le libérer de son obsession du dodécaphonisme. Il en parle comme d'un enfant démodé et doux qui se tient debout sur ses deux pieds toniques. Le deuxième mouvement commence avec le psaume de David, chanté par un enfant.
Thank you.
Et puis des chœurs graves viennent altérer la sérénité du jeune garçon pour lui rappeler qu'un danger est proche. Ce chant, le psaume 2, a pour titre « Pourquoi les nations se déchaînent ?» Exactement comme dans Kaddish, Léni fait intervenir le chaos. En réalité, cette mélodie est même une chute de tout le matériel inemployé de West Side Story. Et oui, le sujet n'est pas neuf. Et Léni tourne depuis toujours autour de ces mêmes obsessions.
Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
L'œuvre s'achève à l'unisson. Ces mélodieux Chichester Psalms, pour le moins œcuméniques, en unissant la tradition chrétienne et la langue hébraïque, sont un appel à la paix en ces temps de guerre du Vietnam. En 1969, Léni prononce un discours à New York contre la guerre du Vietnam. Il y évoque sa bête noire, Nixon.
Il a choisi la manière forte, bluffer, atermoyer, fausser les problèmes, falsifier l'histoire et préserver l'image de grande nation militaire des États-Unis. Comme nous ne le savons que trop, c'est la solution de facilité. Nous savons combien c'est facile, nous le faisons depuis des années. La solution difficile, c'est de permettre à la démocratie de s'épanouir dans le monde. Ça, c'est difficile.
Et nous sommes en pleine révolution afro-américaine.
Niggas are scared of revolution. But niggas shouldn't be scared of revolution. Because revolution is nothing but change. And all niggas do is change. Niggas come in for work and change into pimping clothes. They hit the streets to make some quick change. Niggas change their hair from black to red to blonde. And old black hair that looks will change. Niggas kill other niggas just because one didn't receive the correct change. Niggas change from men to women, from women to men. Niggas change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Nigga things into black nigga things. Black nigga things that go through all kinds of changes. The change in the day.
Vous êtes probablement nombreux à connaître le texte cruel et drôle de Tom Wolfe, le chic gauchiste. Le jeune journaliste se paye le grand chef international, le compositeur national et le grand bourgeois parvenu qui se revendique comme de gauche, Leonard Bernstein. Un texte archi-brillant, mais venimeux au possible, dont l'impact a été dramatique. L'histoire, sur fond de conflits raciaux exacerbés, est très complexe. Elle a des ramifications dantesques qu'il faut vraiment comprendre pour la juger. Remontons à 1963.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
À partir de 65, après des violences policières répétées, des militants de l'Organisation des droits civiques rompent avec la non-violence de Martin Luther King. Ils prennent le nom de Black Panthers, un animal qui ne recule jamais devant l'ennemi.
A lot of people say to me we don't like the Black Panthers for self-defense, walking around with guns. I tell you now, if the hunkies in San Francisco take off the fighters who happen to represent the Black Panthers for self-defense, ain't nobody in this community prepared to fight right now. Everybody gets offed. And that's what we have to understand today. So that everything goes out the window, we talk about survival. That's all. They can cut all that junk about poverty program, education, housing, welfare. We talking about survival, and brothers and sisters, we gonna survive America.
Mais les Black Panthers, d'obédience maoïste, c'est aussi un système collectif d'aide sociale, distribution de vêtements et de nourriture, de programmes médicaux, d'organisation de transport vers les prisons pour les familles, de programmes contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Le 8 septembre 1968, le directeur du FBI, Edgar Hoover, qualifie les Black Panthers de menace la plus sérieuse à la sécurité interne du pays. Et le 2 avril 1969, 21 cadres de la section de la côte Est sont arrêtés et inculpés d'associations de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Emprisonnés, ils ne peuvent sortir avant le procès, la caution étant d'un inabordable montant de $100 000. Et c'est là que nous en arrivons à la fameuse soirée Chellini qui va défrayer la chronique.
Ils attendaient le procès, c'est pour ça qu'ils étaient restés si longtemps en prison. Ils attendaient leur procès, donc ma mère rassemblait de l'argent pour que les familles puissent arriver à vivre jusqu'à ce que les hommes passent en procès.
Dans la soirée du 14 janvier 1970, Felicia a accueilli environ 90 personnes chez elle. La presse n'est pas conviée. Mais Charlotte Curtis du New York Times et surtout Tom Wolfe se sont glissés parmi les invités de personnalités en vue et trois membres des Black Panthers ainsi que les épouses des prisonniers. Les avocats des Black Panthers font un point sur la situation puis répondent aux questions des convives. Tom Wolfe. Les Black Panthers aiment-ils les petits fragments de roquefort ainsi roulés dans les noix pilées, les pointes d'asperges présentées sur des médaillons de mayonnaise et les petites boulettes aux coques hardies, toutes ces petites choses qui en ce moment même leur sont offertes sur des plateaux d'argent guillochés par des femmes de chambre en uniforme noir et blanc repassées à la main. Il cite ensuite une invitée. « Oh, ceux-là ne sont pas des nègres en costume gris trop grand de trois tailles revendiquant les droits civiques, ce sont des vrais noirs !» Et les enchères pour savoir qui sera le plus généreux sont évidemment pitoyables.
« A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. » Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon.
Cette histoire est un jeu de dupes. Tom Wolfe fait passer tous les Black Panthers pour de cyniques et dangereux délinquants. Il précise qu'un des invités sera bientôt arrêté lors d'une rixe. Il les décrit se promenant dans le 13 pièces de Park Avenue, verre à la main, de même qu'il présente Lenny et Felicia comme des naïfs qui s'auto-congratulent pour leurs bons sentiments. Il passe rapidement sur l'altercation entre Lenny et le Panthers Donald Cox à propos de la violence des Panthers. Plus loin, Tom Wolfe fait un portrait encore plus assassin de Felicia. Il l'imagine préparer la soirée. Elle ferme les yeux et voit une scène impossible. Ces femmes de ménage noires passant les plats aux Black Panthers. Cauchemar auquel elle doit remédier. Wolfe, tout est pour le mieux. Les domestiques sont des blanches. Lenny et Felicia sont des génies. En fin de compte, tout est une question de domestique. C'est là qu'est la pierre de touche du chic gauchiste. Tom Wolfe affirme que Lenny et Felicia n'avaient dans leur grande naïveté pas compris les enjeux des tensions entre juifs et noirs. Tendre la main à des extrémistes n'aurait eu d'autre but que de prouver qu'en étant au-dessus des conventions sociales, ils ont atteint le summum de l'ultra-chic. Et Tom Wolfe conclut, pour le chic gauchiste, le gauchisme n'est, après tout, qu'une question de style. Du fond du cœur, le chic gauchiste appartient à la haute société et respecte ses traditions. Mais le plus dupe de tous est peut-être bien Tom Wolfe lui-même. Ce grand méchant Wolfe qui jubile de tirer les ficelles. Or, ce qu'il n'a pas compris, lui, c'est qu'avec ce texte, il est en train de faire le jeu du FBI et d'envenimer un conflit dramatique. Le lendemain de la soirée chez Lenny, le Times condamne les Panthers et les Bernstein pour avoir sapé les efforts sérieux de ceux qui travaillent pour les droits civiques. La Ligue de la Défense Juive ne pardonne pas aux Bernstein d'avoir invité les Black Panthers, animés de haine contre les Juifs et en faveur des Arabes contre Israël. Au cours des mois suivants, les Bernstein reçoivent des tonnes de courriers haineux, subissent d'innombrables attaques dans les journaux et sont harcelés tout le printemps devant leur immeuble par des piquets de la Ligue de défense juive.
Oh, it's very well written and it's very sly and it's very humorous. He's a very good writer.
But c'est un texte très bien écrit, c'est très malin, très ironique. C'est un très bon écrivain, mais il a causé des dommages incalculables à ma famille. Il ne s'est pas rendu compte à quel point il avait pu faire du mal. Le mal est fait. Il s'est moqué des bobos. Mais le résultat n'est pas drôle. Il a été horrible à l'égard de mes parents. Ils ont été humiliés. C'était une humiliation publique. Il y avait une fille dans ma classe qui était moitié noire, moitié juive, et qui m'a dit « Je n'irai plus jamais chez toi à cause de ce que ton père a fait ». Et alors, il t'a offensé en tant que noire ou en tant que juive? Et elle m'a dit en tant que juive. Mais c'était une histoire tellement compliquée et tout le monde a été à cran.
Le 13 mai 1971, après un procès de 8 mois, les accusés des Panthers 21 sont acquittés tout simplement parce que la source d'accusation provenait d'un informateur du FBI infiltré chez les Panthers. Un homme aux antécédents psychiatriques si lourds qu'en aucun cas son témoignage n'a pu être retenu. Or, et c'est vraiment là que le bât blesse, en 80, lorsque les dossiers du FBI sont déclassifiés, on découvre que Lenny était surveillé depuis 30 ans et qu'un dossier de 800 pages a été constitué contre lui. Sa vie privée et ses relations amicales sont consignées. Il a même été sur écoute lors de ses voyages. Le FBI voulait absolument prouver qu'il était membre du Parti communiste, ce qui n'a jamais été le cas. Or, à la suite de la fameuse soirée chez Lenny, le FBI s'est emparé de la rumeur. Un mémo de mai 1970 prouve que les lettres enragées qui étaient publiées dans la presse provenaient des bureaux d'Edgar Hoover. Quant à la Ligue de défense juive qui manifestait en bas de chez Lenny, elle était infiltrée par des agents du FBI.
And they used Tom Wolfe's article
Ils ont utilisé l'article de Tom Wolfe à leur avantage pour créer des conflits entre les Noirs et les Juifs. S'ils se battaient entre eux, ils seraient moins dangereux. C'est une histoire terrible.
En tout cas, cette histoire prouve à quel point Lenny, quand il compose des œuvres réconciliatrices, est animé par des sentiments vécus au quotidien. Quant à Tom Wolfe,
Tom Wolfe saw an opportunity to further his career by making fun of people who were trying to do something serious, and he turned it into a joke. And it was
Tom Wolfe a vu un moyen de faire avancer sa carrière en se moquant des gens qui essayaient de faire quelque chose de sérieux, ce qui l'a tourné en dérision, et ça a fait beaucoup de dégâts à mes parents, mais surtout à ma mère. En fait, je tiens Monsieur Wolfe comme responsable de la mort de ma mère. Elle a été tellement touchée par ce qu'il a fait, par ses railleries, que sa santé s'en est trouvée affectée définitivement. Et elle est morte de la maladie qui a résulté de ce qu'elle avait enduré. Voilà ce qui est arrivé à cause de ses petites blagues.
Lenny a toujours participé autant qu'il le pouvait à des causes humanitaires. Il offrait ses cachets pour soutenir des actions. Non seulement il a aidé à créer des écoles de musique, mais il participait à des associations comme Amnesty International. Il a lancé les Journées de la paix à Athènes et plus tard a activement milité pour AIDS. Ne serait-ce qu'en France, il donne un concert au bénéfice de la recherche contre le cancer avec l'Orchestre National de France et Montserrat Caballé. Lenny est aussi un homme du monde qui croule sous les propositions.
Where it all began was that Jacqueline Kennedy Onassis called my father on the phone.
Au tout début, Jackie Kennedy Onassis a appelé mon père au téléphone et lui a demandé, alors qu'on venait de commencer la construction du Kennedy Center, elle a demandé s'il voulait bien le diriger. Qui pouvait dire non à Jackie Kennedy? Alors il a répondu, ok, ce serait un tel honneur. Et il a raccroché et il a fait. Et puis il a couru vers ma mère et il a dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je ne peux pas diriger le Kennedy Center, je ne suis pas un administrateur. Et même si j'acceptais, je serais terriblement mauvais. De toute façon, je ne peux pas faire ça. Mais en même temps, je ne pouvais pas dire non à Jackie Kennedy. Et c'est retombé sur ma mère, qui a dû libérer mon père de cette corvée.
Et finalement, il sera convenu que Lenny créera tout simplement l'œuvre inaugurale et ce sera Mass. Cette œuvre est le monologue d'un croyant qui tente de mettre à jour son Église. Lenny résume. Mass traite du combat né de la crise de notre siècle, la foi en Dieu. Même à mes débuts, quand j'ai écrit Jérémia, je me débattais déjà avec ce problème. En mixant absolument tous les courants musicaux possibles, alternant des phrases malériennes à du rock, du gospel, du Broadway, une fanfare, du jazz, de la musique d'église médiévale, voire même de la musique indienne, et j'en passe, Lenny écrit la grande messe moderne, celle qui dénonce les raisons du chaos du monde actuel, mais ouvre vers l'espoir.
Alexandris May.
Dona nobis pacem.
Hostiam puram.
Dona nobis pacem.
Hostiam sancta.
Dona nobis pacem.
Hostiam immaculatam.
Dona nobis pacem.
Pacem, pacem, pacem.
Sum dignus Domine. Not worthy, Lord.
l'œuvre très vivement critiquée accédera pourtant à une suprême consécration. En 1973, lors d'une grande cérémonie au Vatican, Leni a fait swinguer le pape Paul VI. Leni, mais qui est ce Leni capable d'écrire une simple et délicieuse chanson comme « Some of the Time » ou la monumentale « Masse » ?
It encompasses everything.
Craig Yockert, le dernier assistant de Leni.
Ça révèle tout ce qu'il est.
Outgoing, private, political,
extraverti, privé, politique, religieux, désillusionné,
hopeful,
plein d'espoir. Ce sont tous les adjectifs que j'utiliserai pour décrire en masse. Ce sont aussi tous les adjectifs que j'utiliserai pour décrire Bernstein. C'était un homme très compliqué.
Naïf, léger Leni, Tom Wolfe ne nous a vraiment pas convaincus. D'ailleurs, nous verrons demain comment Leni en a vu d'autres lorsqu'il a affronté des démons autrement plus retors que des journalistes ultra chics, lorsqu'il s'est retrouvé face à l'orchestre de Vienne encore habité de vieux relents antisémites. Merci à Eric Lancien qui a réalisé cette émission. Merci à Françoise Monteil qui m'a aidé à la préparer. Merci à Bernard Loupias qui m'a aidé lui à traduire nos archives. À Laurent Lederer qui a prêté sa voix à Leni. Et merci à Bernard Laniel à la technique. À demain.